Garde Arem la Terre. Aujourd'hui, quelle nouvelle du projet de territoire de Sivens? Un entretien enregistré fin mai 2019.
Nous sommes avec Christian Conrad au téléphone. Bonjour Christian.
Bonjour.
Christian, vous représentez l'association Apifera, dont on va parler un petit peu de l'historique et du rôle dans le projet de territoire. Et on est aussi en studio avec Jean Bourdoncle. Bonjour Jean.
Bonjour.
Jean, aujourd'hui, pour le collectif Testé, c'est ça?
Pour le collectif Testé, donc, qui a effectivement écrit un communiqué en commun avec les associations avec qui on travaille depuis le début. Donc, il y a la DEAR, Nature et Progrès, Confédération Paysanne, l'île environnement.
LUPNET, FNE, etc. Juste pour resituer, on vous invite parce qu'on a reçu, donc Christian et Jean, on a reçu deux communiqués ressemblants sur le fond. Une lettre ouverte d'Apifera au préfet, à divers présidents du conseil départemental 81-82, Stéphane Mathieu, Madame Lerne, etc. Et donc, lettre ouverte qui s'inquiète un petit peu de la tournure, la non-tournure peut-être que ne prennent pas les choses du projet de territoire. On rappelle juste l'historique avant d'en venir à cette actualité. L'historique, ça, c'est suite donc au projet de barrage sur le Testé à Sivens. On ne va pas revenir sur l'histoire de toute la lutte qu'il y a eu autour de ça. Le fait est qu'ensuite, il a fallu la mort d'un jeune homme pour que plusieurs instances se mettent autour d'une table pour essayer de calmement reparler, se recommuniquer autour de qu'est-ce qu'on fait sur ce terrain, sachant qu'entre-temps, une destruction donc de la zone humide avait déjà été effectuée. Ce qu'avait notamment justement noté Apifera. On rappelle Apifera, Christian, l'objet de votre association.
Alors, notre association, c'est une association en fait de protection de la nature, quoi. Ouais. Voilà, quoi. Donc, je dirais que notre activité, elle est essentiellement, sur cette protection. C'est-à-dire que on va pas trop sur l'environnement, quoi. On est opposé bien sûr aux produits chimiques, tout ça, parce qu'ils ont un impact très important sur la biodiversité, mais je veux dire que par là on perd pas notre temps sur quelques par exemple sur la nourriture, voilà, tout ça, quoi. Voilà, quoi.
Donc, on rappelle que vous êtes naturaliste.
Oui, je suis naturaliste. Quoi. Voilà.
Donc,
formation de botaniste et d'écologue.
Justement, cette zone humide, elle avait une biodiversité rare. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un point d'abord sur qu'est-ce qu'il en est? Il était question de, pendant que les débats se font autour du projet de territoire qui est une reconstruction, où est-ce qu'on en est de la zone humide au niveau de la reconstruction et du retour des droits de la nature?
Alors, il y a une réhabilitation. Alors, le mot réhabilitation, moi je le mets en parenthèse, quoi. Il y a une réhabilitation partielle de la zone humide, quoi. Enfin, qui a impacté, je dirais, 5 hectares. Et c'est-à-dire, c'est la remise en conformité, en fait, de l'hydraulique qui alimentait la zone humide, quoi. Voilà, ce qu'on appelle les descentes collinaires, quoi, tout ça, quoi. Voilà, quoi. Mais moi, quand j'entends, et d'ailleurs, on avait recadré ce discours-là en envoyant un courrier, en fait, une réponse, quoi, à un courrier de Madame Lerme et de Monsieur Pezou, qui disent, quoi, que la zone humide, elle est réhabilitée, quoi. Ben non, elle n'est pas réhabilitée, en ce sens que une zone humide, quoi, c'est quelque chose d'assez complexe, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, il lui faut un sol hydromorphe, et puis après, par la suite, pour déterminer une zone humide, il faut aussi des plantes, en fait, palustres, quoi. Voilà. Donc sur la zone humide du Testé, il y avait ces deux critères, et en 2016, le Conseil d'État a recadré, en fait, la détermination d'une zone humide, quoi, exact. Parce que très souvent, on était sur des milieux humides, sans terrain hygromorphe. Quelquefois, il y a eu des terrains hygromorphes sans plantes, en fait, palustres, quoi. Mmh. Ce qui voulait dire que l'eau de surface n'était pas tenue, hein, il n'y avait pas d'eau. Donc, on a eu ça. La zone humide, là, actuellement, du testé, et notamment sur celle qui a été sur la partie qui a été réhabilitée, on a mis des capteurs, quoi. Enfin, les capteurs ont été mis cette année parce que l'année dernière il y avait beaucoup trop plu les capteurs. Donc il y a des relevés qui sont faits, surtout pour voir si l'hydromorphie en fait fonctionne. Après, en surface, on a comme ça des retenues d'eau par-ci par-là. Bon, il y a des plantes des plantes palustres, quoi, c'est-à-dire avec les pieds dans l'eau, quoi. On aura un résultat, mais un résultat qui ne sera pas complet au bout de 5 ans. Et au bout de 5 ans, déjà, l'État va commencer. Si on a, je dirais, ces deux éléments qui sont en action, on aura déjà une la moitié du travail. Et au bout de 10 ans, si on a exactement le même résultat, c'est-à-dire sur le fonctionnement hypodermique, quoi, de l'hydrologie. Hypodermique, c'est souterrain, quoi. Hein. Mmh. Et puis les plantes, elle sera déclarée zone humide. Pourtant, pour le moment, c'est pas une zone humide, parce qu'une zone humide, elle a une fonction aussi bien précise et qui est importante, c'est qu'elle a le rôle d'éponge, c'est-à-dire que elle retient de l'eau, et surtout, elle a aussi un élément très très important, c'est la filtration, quoi. Voilà, elle va filtrer en fait tous les métaux lourds, tous les produits, enfin je dirais chimiques ou tout ça, quoi. Voilà, quoi. Après, elle a d'autres petits rôles, quoi, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Donc voilà. Donc c'est pour ça. Et tout à l'heure, vous avez parlé en fait de la richesse. C'est vrai que c'était une richesse, quoi, mais c'était un tout, parce que ce que l'on a réhabilité, c'était vraiment le cœur, quoi, hein, la partie la plus importante. Mais après, plus haut, on a encore deux hydromorphies et puis après quelques milieux humides. Et c'était en fait l'ensemble, hein, que l'on appelle nous une mosaïque écologique, qui faisait en fait cette richesse-là, hein, avec 94 espèces protégées et puis aussi parce que il y avait des milieux qui étaient différents, et 94 espèces qui ont été faites dans l'inventaire. Moi j'en avais répertorié 120 parce que l'inventaire, vous le savez, il a été relativement bâclé, quoi. Mmh. Voilà, quoi.
Sivens, depuis le premier coup de pelle en septembre 2014, c'est le barrage de la Discorde dans le département du Tarn. Un projet qui va recouvrir 48 hectares et retenir 1,5 million de mètres cubes d'eau en amont d'un ruisseau, le Tescou.
Vidéo L'Autre JT sur France 4, janvier 2015.
Il y a 5 mois, les lieux ont été investis par des dizaines de personnes qui souhaitent préserver cette zone naturelle et suspendre les travaux. Pour les en dissuader, le gouvernement envoie les forces de l'ordre. Au total, ces altercations font 40 interpellations, 20 gardes à vue, 5 comparutions immédiates, au moins 26 blessés et un mort, Rémi Fraisse. Pourtant, en ce même lieu, la délinquance n'est peut-être pas là où l'on croit. C'est l'histoire d'un petit milieu constitué d'élus, de cols blancs et de barons locaux qui jouiraient d'une étrange impunité. C'est à quelques mètres de l'endroit où est mort Rémi Fraisse que nous débutons notre enquête.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, ils sont où les délinquants ?
Ah bah les vrais délinquants, c'est ceux qui ont construit, qui ont commencé à construire ce barrage de Sivens.
Lui, c'est Ben Lefeté, porte-parole des opposants au barrage. Après avoir fait ses armes chez Greenpeace, il se bat depuis plus de 2 ans contre ce projet de barrage. Pour lui, les délinquants sont ceux qui veulent, coûte que coûte, réaliser ce projet.
Construire ce barrage,
c'est la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, qui est un constructeur de barrages, qu'on appelle la CSG, son acronyme. C'est des délinquants parce qu'ils ont fait croire, à travers leurs études, en tant que constructeur de barrages, qu'il fallait le faire, alors que quand on regarde les données de terrain, il n'y a pas du tout besoin d'un barrage ici à Sivens.
La CACG, c'est une société d'économie mixte, un curieux alliage d'industriels et de politiques. C'est le plus gros constructeur de barrages de la région, près d'une centaine depuis sa création en 1959. Tout commence en 2001. Le conseil général est inquiet. Sa rivière qui irrigue les terres du coin s'appauvrit. En gros, il y a moins d'eau et plus de pollution. Alors, pour trouver une solution, il se tourne vers la CACG. Et je vous le donne en mille, le constructeur de barrages va proposer quoi ? Un nouveau barrage. Pour justifier cette décision, la CACG s'appuie sur des études qu'elle a elle-même diligentées sur place. Après 2 ans d'enquête, Ben a réussi à mettre la main sur ses études. Il nous emmène chez lui pour les consulter. Arrivé à son domicile, ce jour-là, il avait reçu une autre visite, celle des pro-barrages. Ils ont fait de Ben leur bête noire.
C'est chez moi, donc ça a été tagué cette nuit.
Qu'est-ce qui s'est passé en fait ?
Voilà, c'est des pro-barrages a priori. Hein, c'est marqué oui, Sylvain, c'est si. Ici vit Ben Laden, donc moi, c'est mon surnom, c'est Ben. Donc j'ai déjà été agressé en septembre. Un pro-barrage m'a cassé le doigt ici. Sur une manifestation. Il y a des menaces par email, un site internet pro-barrage aussi avec des menaces, mais c'est la première fois qu'ils interviennent vraiment au niveau de la maison. C'est pour montrer qu'ils savent où j'habite et que si on continue à fouiller les dossiers, peut-être qu'ils iront plus loin au niveau de la maison.
Les voici les dossiers. 2001, première étude de la CACG. L'eau est polluée, le débit est insuffisant, il faut un barrage. Le processus d'attribution du marché de la construction de ce barrage se met en place au Conseil Général.
Elle regarde quelles sont les pollutions qui arrivent dans la rivière. Et la seule pollution industrielle, puisqu'il n'y a qu'une usine qui rejette dans le Tescou, c'est une petite rivière, hein, donc il n'y a qu'une seule usine qui rejette, c'est la laiterie Sodiaal à Montauban. D'accord. Et donc elle analyse à l'époque que cette laiterie pollue énormément puisqu'elle ne respecte pas les normes officielles de l'époque. Et surtout pour le phosphore, donc on le voit ici, le phosphore, la charge rejetée en mars atteint 13 fois la valeur admise.
Mais gros grain de sable, en 2008, les experts publics de l'agence de l'eau publient leur propre analyse. Et surprise, le taux de phosphore dans le Tescou a considérablement diminué. Et pour cause, sur place, l'usine à l'origine de la pollution, une laiterie, s'est dotée d'un centre de traitement de ses eaux usées. Pourtant, en 2008, le Conseil Général vote la construction du barrage et attribue le marché à la CACG. Pour conforter ce choix des élus, pour justifier la construction de ce barrage, la CACG publie une dernière étude en 2009. Elle ne prend pas en compte la dépollution du Tescou, comme si rien n'avait changé depuis 2001.
Quand elle a réactualisé les données, Elle n'a pas du tout tenu compte de la baisse de la pollution.
Étude bidon pour les opposants. Mais il n'y a pas que ça qui pose problème. Dès le début, on doute de l'intérêt général d'un tel ouvrage. Et là aussi, les études divergent. Pour la CACG, ce sont 80 agriculteurs locaux qui, grâce à son barrage, vont pouvoir irriguer leurs terres. Faux, selon Ben.
Pour que le projet soit d'intérêt général, il faut annoncer un grand nombre de bénéficiaires pour qu'ils puissent être démontrés à la fois lors de l'enquête publique, mais aussi pour obtenir des financements publics, que ce projet va bien bénéficier à un grand nombre d'agriculteurs. Et donc, elle annonce là ici 82 bénéficiaires, alors que nous, quand on a regardé qui étaient réellement les bénéficiaires du barrage, on arrive aujourd'hui à peu près, nous on a toujours dit que c'était à peu près une vingtaine de bénéficiaires seulement, maximum.
Des chiffres confirmés par les experts du ministère de l'écologie. Ce n'est pas 80, mais 30 agriculteurs qui pourront bénéficier du barrage. Pour justifier la construction de son barrage, la CACG aurait donc gonflé les chiffres. Mais nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises. Dans le département, la société n'en est pas à son coup d'essai. Elle traînerait même une vilaine casserole.
Là, je vous amène au barrage de Fourogue, qui est un barrage qui a été construit en 98.
Et 3 ans après sa construction, la justice a fini par le déclarer illégal, pour motif qu'il ne répondait pas à l'intérêt général. Il faut dire que la CACG s'était empressée de construire ce réservoir, malgré l'interdiction du tribunal administratif.
Oui, alors ça, c'est un barrage qui est illégal parce que la CACG avait été condamnée par la justice à stopper les travaux. Donc avec le Conseil Général, ils n'ont pas respecté la décision de justice, ils ont continué à faire les travaux jusqu'au bout.
Chiffres gonflés, construction illégale. Malgré cela, la CACG règne sur la région. Elle y a construit une centaine de barrages depuis 60 ans. On est donc allé interroger Thierry Carsenac, le président du Conseil Général du Tarn, sur ses études plus que douteuses.
Monsieur Carsenac, bonjour, Alain Henry pour France Télévisions.
Oui, salut.
Ceux qui occupent le barrage pour l'instant sont dans l'illégalité, c'est ce que vous dites. Mais en revanche, les nombreuses...
Vous avez des gens qui sont empêchés de rentrer chez eux, qui n'ont pas d'électricité, etc. Et les personnes qui sont sur le site occupent un site illégalement.
D'accord. Et les nombreuses erreurs qui ont été commises par la CACG dans leurs deux rapports en 2001 et en 2009.
Mais mon cher, en 2001 ou 2003, il n'y avait pas eu le Grenelle 1, il n'y avait pas eu le Grenelle 2.
Malaise. Je n'ai jamais parlé de 2002. Je parle de la dernière étude de la CACG en 2009. Celle qui est censée réactualiser l'étude de 2001, mais qui en fait n'en est qu'une copie conforme.
Mais en 2009, pourtant, la réactualisation de ce rapport, c'était la même qu'en 2001. Les chiffres n'ont pas changé.
En 2009, a été réalisé le barrage du Terrandelle et il n'a posé aucun problème.
Ah oui, c'est vrai. Il fait politicien première langue. Le concept ? Répondre systématiquement à côté.
Bonne journée, au revoir.
Pour l'instant, le dossier du barrage de Sivens est bloqué. Opposants et promoteurs du projet refusent d'entamer le dialogue. Pour la CACG, les affaires tournent et la société ambitionne de construire 80 barrages d'ici 2050.
Alors, donc ça c'est pour l'état de la zone actuellement. On revient avec Jean Bondoncle, notamment du collectif Testé, avec, on rappelle donc, vous, Apifera, le collectif Testé, l'ADAR, la Confédération Paysanne, Nature et Progrès, l'île Environnement, l'UPNET et FNE notamment, mais pas que, on va citer aussi les autres acteurs. En tout cas, c'est vous qui vous inquiétez en ce moment du statu quo un peu qu'il y a sur les réunions qui devraient travailler sur un projet de territoire à essayer de dépasser les clivages peut-être. On lit sur le communiqué de presse de l'association Nature et Progrès, Confédération Paysanne, etc., qu'il y a quand même des débouchés qui pourraient amener à des avancées importantes et porteuses d'espoir pour tout le territoire. Alors on imagine que vous êtes soumis à une clause de confidentialité sur le fond. Est-ce que Jean, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui est porteur d'espoir, alors oui. Que vous nous dites quand même qu'il y a quand même, on peut craindre que ça n'avance pas, oui. Ou pas dans le bon sens.
D'abord, comme Christian et comme Apifera, nous aurions souhaité que les débats soient publics. Et donc c'est une demande qui a été formulée, qui n'a pas été retenue, et on peut en comprendre les raisons, en raison du caractère conflictuel de la région. Donc effectivement, ça a sans doute permis qu'on arrive à se parler dans le respect. Donc il y a eu une phase de projet territoire qui était pilotée par un organisme mandaté pour ça, Apifera, qui a vraiment permis de poser les bases du dialogue.
L'audit Adeprina, c'est ça?
Oui, Adeprina, oui.
Et non pas Apifera.
Oui, et donc qui a permis effectivement d'arriver à l'écriture d'une charte commune, donc de poser les bases d'un travail possible. Nous, organisation qui avons signé ce communiqué, nous sommes pour le projet de territoire. On pense que c'est la façon d'arriver à trouver la meilleure chose pour l'écologie, pour les gens, pour le territoire, pour l'économie. Et donc on y participe volontiers dans tous les groupes projets. Et donc, effectivement, il y a des choses qui avancent. On sait qu'il va y avoir des réalisations. Et on sait aussi qu'il y a des réalisations qui sont relativement consensuelles. Quand on travaille sur le circuit court ou sur la biodiversité, je veux dire, on peut réunir tous les acteurs sur les mêmes idées. On sait qu'il y a un point qui est sensible, c'est celui des solutions eau, puisque c'est là-dessus qu'il y a eu un affrontement. Et que là, on sera, après avoir travailler sur le chiffrage des besoins éventuels, après avoir envisagé toutes les possibilités pour les questions de l'eau, la rétention dans le sol, l'utilisation des retenues. Je pense qu'il y a quand même des rapprochements, des choses plus objectives qui sont dites, mais on restera sans doute dans une hypothèse d'affrontement, de choix qui ne seraient pas les mêmes pour les uns et pour les autres, ne serait-ce que pour le côté symbolique et du passé. Donc, et dans cette phase-là, donc, il est important que le projet de territoire continue dans la forme, dans la charte, dans le règlement intérieur qui a été proposé, c'est-à-dire qu'il y ait les réunions, qu'il y ait les discussions. Et justement, donc, ce qu'on dénonce dans ce communiqué, c'est que depuis maintenant plus d'un mois, il n'y a plus de réunion de l'instance de décision et de l'instance de discussion générale, l'instance qu'on appelle de co-construction. Ça nous fait craindre qu'il y ait des choses qui soient discutées en dehors de la co-construction. Et donc, on dit les espoirs sont possibles, on veut le projet de territoire, mais attention, si on ne garde pas la forme de la co-construction de la façon très stricte, et en particulier dans cette période difficile, on revient à la case de départ.
Christian, peut-être une réaction ?
Oui, je voudrais regarder. Moi, je suis toujours ébahi de l'optimisme de Jean, et parce qu'on a souvent eu des discussions là-dessus, et notamment au moment de la réunion de la charte, quoi, enfin des réunions que l'on avait faites, les réunions des associations, on en a beaucoup discuté. Nous on a signé la charte, mais parce que au sein d'Apifera, en fait, on a créé un groupe de travail, quoi. En 2017, on a créé un groupe de travail. Bon, moi, jusqu'en 2018, début 2018, j'ai participé à toutes les réunions. Et puis après, je commençais à être saturé et surtout très fatigué. Et puis bon, comme je voyais tout d'une façon, quoi, un peu noire, j'ai préféré passer la main, quoi. Mmh. Voilà. Mais ce que je voulais dire à Jean, c'est dernièrement, moi, j'ai vu un article sur, parce que là il y a une nouvelle instruction gouvernementale qui vient de paraître, quoi. Et puis dans ce qu'a présenté en fait le gouvernement, il dit comme ça, un bon outil d'animation locale s'il est bien au service d'une démarche constructive et non à vocation exclusive d'encadrer, quoi. Voilà, quoi. Depuis le début, depuis le début, quoi, on est en fait dans cette vocation, je dirais, exclusive de vouloir encadrer, quoi. Et moi, je m'étonne parfois de voir au sein du collectif de lâcher des choses parce que il y a quelqu'un qui, parce que ça plaisait pas à quelqu'un, tout ça, voilà, quoi. Même depuis cette réunion, malheureusement, j'étais pas là du 28 septembre 2017 où ils ont imposé la charte, quoi. Eh bien, à ce moment-là, nous étions au collectif, quoi, et je l'ai dit, il fallait qu'on mette en face un rapport de force. Il n'y a jamais de rapport de force qui a été mis en place, quoi. Jamais, quoi. Voilà.
Peut-être laisser répondre Jean de stratégie.
Il ne faudrait pas que cet entretien laisse penser que nous sommes sur des positions différentes.
Non, pas du tout.
L'article, nous l'avons écrit dans une réunion avec 9 personnes représentant pas mal d'organisations, dont Gérard Lannoy qui participe, qui est Apifera, et donc qui nous a bien expliqué notre démarche. Donc nous sommes sur les mêmes vues, nous avons les mêmes craintes aussi, et simplement donc pour les 9 signataires là, nous disons que actuellement nous pensons que le fait de participer au projet des territoires amène des évolutions plus favorables par rapport aux objectifs que nous avons en commun, hein. Voilà. Certes, il y a des dégâts irrémédiables sur la zone humide, mais ça, de toute manière, d'une façon ou d'une autre, sortir ou rester dans le projet, on ne va pas l'arranger mieux. Par contre, pour ce qui est la biodiversité, pour ce qui est des solutions eau, pour ce qui est surtout l'évolution de la prise de conscience des gens vers l'agroécologie, on pense qu'on est plus utile en y restant qu'en laissant la place vide.
Juste pour réagir, juste pour resituer, donc on rappelle qu'on est avec Christian Conrad de Apifera et Jean Bourdon, le collectif testé autour du projet de territoire dont on a appris, donc ça a pataugé un peu, ça, sans mauvais jeu de mots, puisque pas de réunion depuis, je crois, 2019, et donc la crainte de certaines associations qu'il se passerait peut-être des choses dans le dos de ce projet de territoire, en tout cas dans le processus démocratique.
Juste une précision. Ce qui a fait défaut, c'est les réunions de co-construction générale. Il y a eu des réunions des groupes projets qui ont bien travaillé. Il y a eu une journée circuit de proximité. Mais justement, ça ne peut pas se mettre en œuvre s'il n'y a pas l'Assemblée générale.
Peut-être ça jargonne un peu pour les auditeurs et auditrices. Ouais. Les réunions de co-construction, ce seraient des plénières qui rassembleraient tous les groupes projets.
C'est l'Assemblée générale de tous les participants, des 60 participants au projet de territoire.
Hein. Donc avec des institutions, les associations, des syndicats agricoles,
les élus,
on imagine justement que c'est l'occasion aussi de confronter peut-être des visions du monde, donc ça c'est pas simple, c'est aussi l'occasion de confronter des emplois du temps. Est-ce que c'est juste un problème d'emploi du temps, ou est-ce que ça peut être d'autres choses qui bloquent les négociations, en tout cas le dialogue?
C'est bien sûr difficile de réunir du monde, mais nous y sommes arrivés au printemps 2018 à faire 4 réunions de cette instance. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire maintenant si la volonté elle est là, et de dire c'est nécessaire, il faut se réunir pour discuter entre nous de transparence, pour qu'on arrive à des choses qui soient partagées, en tout cas qui sont bien comprises et aux meilleures solutions.
Ce qui donne lieu là dans votre texte à une conclusion, enfin ou provisoire en tout cas, sur ce qui s'est passé après et qui s'intitule « La carotte de la démocratie participative » et le bâton des milices fascistoïdes. Donc cette séparation en fait entre deux idées de la lutte.
Membre du collectif Tant qu'il y aura des bouilles dans l'émission La demi-heure radioactive sur Radio Galère, décembre 2017.
Différente, disons ça pour simplifier, mais c'est un peu ça. On peut dire que ça a été immédiatement récupéré par les autorités. Hein. Il y a ceux qui veulent bien participer, puis les méchants qu'on évacue par la force. Hein.
C'est un voilà, peu... il y a eu une sorte de... Jusqu'à présent, il y avait une solidarité jusqu'à octobre 2014, une solidarité dans la lutte, quoi. On va dire que la lutte crée un rapport de force sur le terrain, qui avait pour objectif de faire bouger les lignes, d'obtenir des choses, de par le rapport de force pouvoir éventuellement négocier. Et ensuite, effectivement, il y a eu sur le terrain, les occupants se sont retrouvés tout à fait isolés. Et à côté de ça, ceux qui faisaient le choix de se faire coopter dans les forums de discussion, eux ont joué leurs cartes un peu en solo, en espérant obtenir des choses. Mais voilà, pour l'instant, c'est plutôt on attend de voir, mais c'est plutôt infructueux, quoi, comme.
Comme stratégie. Alors, le 31 octobre 2014, donc juste après la mort de Rémi Fraisse, Ségolène Royal, donc, qui est ministre de l'écologie, suspend les travaux et propose une réunion avec d'apaisement, n'est-ce pas, avec tous les acteurs. Qui participe à cette réunion ?
Plus ou moins les syndicats agricoles, le syndicat majoritaire, également la Confédération paysanne, je pense, qui envoie un représentant, le collectif Testé, donc les associations environnementalistes, ONON et avec France Nature Environnement, et également les collectivités locales, quoi. Donc en fait, les différents acteurs institutionnels fréquentables. Qui ont une légitimité aux yeux de l'État dans cette lutte, quoi.
Et le porte-parole du collectif Testé dit qu'il préconise un vrai dialogue, c'est ce qui ramènerait le calme. Donc, il n'y a pas de surprise, en fait. Hein.
Voilà, oui, c'est ce qu'il voulait, en fait, c'est ce qu'il réclamait depuis le début, quoi. Sauf que là, effectivement, le contexte avait changé. C'était un contexte où le ministère de l'Intérieur, la préfecture du Tarn les équipes de gendarmerie présentes sur place étaient responsables de la mort de Rémi Fraisse. La question c'était... est-ce qu'on peut négocier la paix alors même que les responsables de la mort d'un homme ne sont pas inquiétés, leur légitimité n'est pas remise en cause, leur responsabilité n'est pas pointée du doigt par la justice. On a un peu la formule qui dit une paix sans justice, elle n'est pas vraiment satisfaisante, quoi.
Christian, je reviens vers vous. Par rapport à votre demande, vous, Apifera, qui était partagée avec les autres associations, d'avoir un rapport public de ces discussions. Donc on a entendu le fait que peut-être c'était dangereux par rapport au conflit déjà en cours d'avoir une visée publique là-dessus. Est-ce que ça aurait permis quand même, selon vous, justement, de mener ce rapport de force que vous appeliez de vos voeux?
Moi, je pense que oui. Hein. Après, dangereux, c'est ce que que dit Madame Lerme, quoi, qui a je dirais une paranoïa congénitale, quoi, et puis avec les autres élus, quoi, voilà, quoi. Donc, on
voilà. Ne peut pas nier que ça a quand même déchiré un territoire.
Enfin, parce que, oui, non, mais ça c'est sûr, hein, je sais bien, parce que j'en ai subi les conséquences quand même, quoi. Donc, mais quand on est dans le combat, quand on est dans un combat, ben, moi je pense qu'on fait front à toutes les situations, quoi, oui. Et on essaye de les gérer. Voilà. Donc ça a été imposé. Moi j'ai la nette impression que en fait c'est eux qui imposent tous, hein. Donc c'est-à-dire qu'ils ont vraiment mis en place, quoi, un encadrement, quoi. On suit ou on suit pas, quoi. Voilà, quoi. Donc c'est ça. Mais moi je voudrais rajouter comme ça et quelque chose par rapport à ce que vient de dire aux gens, c'est-à-dire que nous, association de protection de la nature, on ne supportera pas, hein, même une petite mare, quoi que ce soit, qui se fasse sur la zone détestée. Mmh. Hein, et c'est quand même compréhensible, quoi, hein, parce que on est une association de protection de la nature. Mmh. Même la zone humide de Cobellé, moi j'ai vu en amont se développe parce qu'il y a les eaux qui ont été détournées et que l'on a en fait je pense, mais bon, il faudrait faire des je dirais des sondages, mais je pense qu'on a en fait un écoulement hypodermique, c'est-à-dire souterrain qui s'est mis en place, et on a une zone qui s'étend, quoi. Voilà, quoi, qui s'étend. Mais que l'on me dise, parce que je sais ce que va répondre Jean, que eux aussi ils sont contre le fait qu'on fasse quelque chose, quoi, hein. Mais quand je vois quand même qu'ils ont déjà mis des plots de marquage en fait sur le terrain, et notamment pour je dirais matérialiser les retenues latérales, hein, les deux retenues latérales, quoi. Et que par exemple samedi dernier il y avait une réunion en fait de la FNSEA avec la chambre d'agriculture sur le testé sur la zone humide, quoi. Mmh. Voilà, quoi. Et je sais que en ce moment il y a des alertes, hein. En ce moment il paraît que ils sont un petit peu énervés, quoi, et qu'il faut faire attention.
On a reçu effectivement un communiqué de presse dans ce sens qui voilà. À la fois faisait le même constat que vous, que les réunions n'avançaient pas. Oui. Et à la fois semblait dire que si ça n'avançait pas, ils allaient avancer par eux-mêmes.
Et après ce que je veux dire à Jean, et puis ce que je veux dire en fait aussi aux journalistes, c'est que il n'y a pas de conflit entre le collectif et nous, hein, d'ailleurs jusqu'à maintenant moi j'ai fait attention, et puis on a fait attention aussi à ne pas porter tort, quoi, à l'ensemble des associations qui sont dans la lutte, quoi, hein. Mmh. Voilà, mais il y a quand même des choses sur lesquelles nous on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord sur la stratégie, et je pense que là ils ont pas bougé d'un iota, et les élus, bon, les élus c'est leur électorat aussi, quoi, hein. Donc, et les élus naviguent avec ce problème-là, et puis cette affirmation, quoi, des syndicats agricoles, quoi. Oui, sauf celui de la Confédération paysanne.
Je vais simplement te dire que la meilleure solution pour les objectifs qu'on cherche, c'est d'aller discuter dans un cadre qui permet cette discussion. Il y a un règlement intérieur que nous avons coécrit. C'est essentiellement nous qui avons été les rédacteurs et qui avons négocié. Donc, dans ce cadre-là, ça permet mieux que d'autres façons de discuter et d'amener les gens à des positions raisonnables. Voilà. Après, on n'a absolument pas aucune différence sur les objectifs qu'on a. On peut prioriser une piste ou une autre, mais l'ensemble des organisations Et donc Apifera fait partie encore dans le fond. On est bien d'accord sur les mêmes choses. Hein, voilà.
Juste, vous faites quand même c'est une sortie publique de deux communiqués cette semaine. On rappelle donc quelques semaines auparavant communiqué de la FDSEA qui aussi faisait une sortie publique sur ce thème-là, alors que donc le cadre est que vous ne pouvez pas parler du fond. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce que vous pouvez attendre de remettre cette question dans l'espace public? Est-ce que, par exemple, Christian, quand vous dites qu'il y a des choses qui se passent sur la zone, est-ce que Apifera compte organiser des visites pour que le citoyen voit eux-mêmes qu'il y a des choses qui se passent? Est-ce que c'est aux citoyens de venir se remêler de tout ça, en plus des élus qui, comme vous le dites, peut-être sont bloqués un peu entre leur électorat et leurs obligations, et vous qui êtes un peu soumis au silence par les règles du débat?
Enfin, nous, on en a discuté entre nous, quoi, mais pour le moment, on n'a pas pris de décision, quoi. Moi, je pense que ce qui serait bien, c'est de faire un débat public, quoi, avec toutes les associations, quoi. Que ce soit les associations qui sont dans le collectif, et puis notre association, quoi. Voilà, faites qu'on informe, et puis, bon, on peut avoir aussi, de toute manière, il y aura des contradicteurs, ça c'est sûr, mais de faire une réunion comme ça. Enfin, moi, je pense que ce serait le mieux. Après, aller sur la zone, moi sincèrement, je vous dirais que j'y vais de moins en moins sur la zone. L'an dernier, depuis qu'elle a été réhabilitée, quoi, et surtout quand elle a été complètement mise à nu, quoi, j'y suis allé assez souvent pour voir en fait comment évoluer la végétation. Et puis j'ai commencé à faire un inventaire, mais je peux vous dire que cette année, j'y suis plus revenu, quoi, que ce soit un inventaire floristique ou un inventaire faunistique. Voilà. Et puis là, il y a un agriculteur en fait qui a girobroyé plein de zones, et puis des zones qui étaient interdites, quoi, hein, en fait, au public. Hein. Donc moi j'ai l'autorisation par le président du conseil départemental pour aller dessus. Mais là j'y vais un peu moins, quoi. Enfin, j'y vais pas du tout parce que je suis un petit peu désespéré, quoi. Voilà, de voir comme ça, enfin, de voir aussi qu'il a girobroyé des choses, quoi, voilà, quoi. Mmh. Il y a des choses qui devaient être faites, qui n'ont pas été faites, quoi. Voilà, il y a des moments, bon, c'est pas que je baisse les bras, quoi. Bon, si je manque une année, et puis souvent quand je vais là-bas, en fait, je garde toujours ma voiture très loin, parce que quand il y a des véhicules qui passent, j'entends des noms d'oiseaux, j'entends des menaces, bon, voilà. Donc voilà, on devrait ouvrir le débat, quoi.
Jean. Alors justement, par rapport à la carence de publication des choses, il y a quand même un site sur lequel vous pouvez trouver tous les documents validés, hein. On ne publie pas ceux qui ne sont pas validés, mais les autres le sont. C'est le site du collectif CST, que je vous invite donc à aller visiter. Vous avez effectivement tout l'historique du projet de territoire, mais aussi le dernier article, c'est le nouveau scandale sur le TST. Donc effectivement, il y a des choses qui ont trait à nos demandes actuelles et aux enjeux actuels. Donc allez-y, c'est là que vous trouverez les documents. La communication, eh bien, moi faisant partie du groupe communication et gouvernance, je sais qu'elle va se mettre en place sur le projet de territoire si on arrive à redémarrer le fil des réunions normalement, puisque nous avons aujourd'hui les moyens, nous savons même qui va le faire et comment, et avec quel financement. Mais voilà, le tout, c'est qu'il faut se remettre au boulot, quoi.
Une nuit pleine d'effroi, à laquelle je repense parfois, en plein pays de Jaurès. On a tué Rémi Fraisse, tout juste 21 printemps, un vrai petit bout de gare, manifestant pour les arbres qu'on ne les abatte pas. Ça me dépasse, ça ne passe pas. Ça me dépasse, ça ne passe pas. Alors je revois ces gendarmes, sûrement pour la plupart papa, tirant dans le tas car la jeunesse, faut s'en méfier, y a des ultras. Dixit la FNSEA, derrière ses néos, ses haltères, armés de manteaux de terre, se cachent des djihadistes verts. Ça me dépasse, ça ne passe pas. Ça me dépasse, ça ne passe pas. Verdict est tombé, le gendarme soupçonné n'est pas coupable et il y a mieux, bien mieux. Ça a fini en non-lieu par ce déni, cette bassesse, le dénommé Rémi Fraisse est mort une deuxième fois. Est mort une deuxième fois.
Merci à Wally pour cet hommage musical à Rémi Fraisse. On retourne avec Jean Bourdoncle du collectif Testé et Christian Conrad de l'association Apifera pour un entretien enregistré fin mai 2019.
Comment les citoyens peuvent prendre part au débat et s'informer?
Voilà.
Parce qu'effectivement, plus on perd de temps, plus les citoyens soit oublient l'histoire, soit peuvent se désintéresser de cette histoire-là.
Pour nous, comme pour Apifera, c'est vraiment une condition que le débat soit public, que le projet de territoire, comme on disait, irrigue le territoire aussi. Quoi. Mais pour le moment, ce n'est absolument pas le cas. Voilà.
Juste un point sur peut-être cette charte. Qu'est-ce que risque n'importe quel des acteurs autour de la table, que risque une association ou un syndicat à ne pas respecter les règles? Si par exemple vous en dites trop publiquement, ou si la FNSEA commence à faire des choses qui n'ont pas été validées dans ce collectif, est-ce que la charte valide quelque chose qui dit ben, ça c'était pas permis, il y aura des sanctions?
Non, il n'y a pas de sanctions. Moi je dirais pas qu'on est dans le combat. Le combat c'était avec des battes de baseball sur les barrages. Là on est dans essayer de convaincre avec des arguments objectifs, avec en partageant les données, première condition, que tout le monde a intérêt à aller vers des solutions raisonnables. Donc on est sur cette histoire-là de convaincre. C'est pour ça qu'on a vraiment comme seul impératif pour avancer dans le bon sens que ces réunions aient lieu. Et depuis qu'elles ont lieu, on s'aperçoit qu'effectivement, les choses sont discutées directement, différemment. Et donc, on arrive à faire évoluer les lignes. Petitement, pas assez vite. On n'arrive pas à réparer ce qui a été cassé, mais on arrive à envisager des solutions qui sont meilleures pour la suite. Et donc, je fais référence aussi à ce que disait Christian, les derniers textes gouvernementaux, et en particulier le rapport du Sénat qui est apparu. On se rend compte aussi que l'évolution de ces textes-là, de ces directives, va dans le sens de choses plus raisonnables, et qu'on est quand même dans un contexte où on peut faire évoluer les choses. Voilà.
Ouais, mais on est quand même pas les seuls à être bloqués, parce que tu as bien vu en fait dans l'instruction du gouvernement et puis aussi sur les différents articles qui sont sortis, quoi. Il y a une centaine, en fait, dans l'Hexagone, il y a une centaine de projets de territoire qui sont mis en place, des discussions, et il y en a que 5 qui ont abouti, quoi. Donc,
abouti à un consensus.
Comment?
Abouti à un consensus.
Oui, abouti à un consensus, quoi. Voilà, quoi. Et moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que on a oublié, en fait, la référence principale qui était, d'une part, la circulaire de Madame Royal, quoi, et maintenant qui est la nouvelle circulaire. Bon, moi, je l'ai lue, la nouvelle circulaire. Je la trouve quand même, je la trouve bien, parce que elle est, je dirais, plus avantage, à l'avantage d'économie d'eau, de remettre aussi, de s'adapter au réchauffement climatique, et puis, je dirais pas d'imposer, quoi, mais presque d'imposer, quoi, en fait, un autre modèle agricole. De toute manière, il va falloir y passer, parce que...
Et accompagner les acteurs de ce modèle.
Voilà,
aussi,
les acteurs. Et moi, je l'ai souvent dit, on a souvent oublié la circulaire. Et ça les arrangeait bien. Et d'ailleurs, moi, j'ai participé à la réunion, en fait, de cette nouvelle instruction. Et moi, c'est ce que j'avais dit. Et je sais que dans la réunion d'après, il y avait la FNSEA et la Confédération paysanne, quoi. Et la FNSEA critiquait la circulaire de Madame Royal. Et je pense qu'ils vont critiquer celle-là aussi. Ils sont très opposés, quoi, à des directives comme ça qui... voilà, parce que, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, quoi. Mais ce qui est important, c'est de suivre les instructions aussi, quoi.
Voilà. Ce qui est important, tu le dis, c'est de participer à ce que ces textes-là aillent dans le bon sens. Donc,
oui.
c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a FNE aussi qui siège dans les commissions qui d'études. Hein. Et donc, effectivement, je cite FNE, mais je pourrais citer d'autres. Donc, effectivement, si on reste dans un cadre où on est vraiment écouté, en tout cas de co-construction, on a intérêt à y être. Voilà.
Oui, mais oui, d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais à un moment donné, il faut mettre en place un rapport de force, quoi. Tu parlais de dialogue tout à l'heure. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait un dialogue, quoi. Un dialogue, c'est quelqu'un qui t'écoute. Hein, c'est quelqu'un qui argumente, quoi. Et quand toi t'apportes des arguments, par exemple sur la consommation précédente, je dirais ou antérieure, quoi, de l'eau, là-dessus ils veulent pas discuter, quoi.
Si les positions, elles ont évolué, elles ont très 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 grandement évolué dans les débats depuis qu'on est au projet de territoire pour tout le monde. Et je vais te dire quelque chose aussi, quand on est ensemble en co-construction autour de la table, on a des gens intelligents qui sont là pour discuter. Et il y en a des deux côtés. Quand on est dans les barrages, en train de se battre, on n'a que des gens qui sont venus pour se battre et on n'avance pas. Donc, oui, on souhaite encore se retrouver autour de la table à construire ensemble. Et oui, les choses, elles évoluent quand on s'écoute. Les conditions pour s'écouter, c'est ça. C'est celle qu'on crée dans le projet de territoire. Et c'est ce qui est souhaitable dans la mesure où on arrivera à le maintenir. Voilà l'objet de notre alerte.
On ne va pas refaire le débat ici. En tout cas, on a compris qu'il y avait un débat convivial et cordial, en tout cas entre vous. Mais stratégiquement, effectivement, ça peut... on le voit dans la tourmente, puisqu'il n'y a pas de réunion. Chacun se pose des questions de son côté. Peut-être remettre un peu la balle au centre du terrain. C'est-à-dire que c'est quand même... Il y a bien quelqu'un qui bloque ça ou quelqu'un qui... Ou une instance qui ne fait pas son travail d'animer un débat démocratique, et c'est ni d'un côté ni de l'autre que peut-être la faute est à chercher. Et juste je voudrais juste ouvrir le débat, en tout cas pour nos auditeurs, la réflexion, puisque là je vous propose de terminer là-dessus, rappeler que peut-être que si en face il y a des agriculteurs qui ont qui estiment avoir des urgences économiques parce qu'il y a un modèle qui est compliqué, qui est complexe, qui fait qu'il y a de l'endettement, etc., et qui, comme il est dit dans le communiqué, est de l'agriculture intensive pour une majorité, on peut rappeler peut-être qu'il y a d'autres responsables économiques qui font qu'on garde ces modèles-là et que ce n'est pas forcément les personnes qui portent ces fautes-là.
Aujourd'hui, L'argument économique va tout à fait dans le sens d'une évolution des pratiques vers l'agroécologie et vers le bio et vers les circuits courts. Je veux dire, on peut, en discutant avec des agriculteurs qui sont dans d'autres pratiques, leur dire de toute manière économiquement, vous avez intérêt à aller pour vers ça. Parce que c'est là que vous aurez des débouchés, que vous aurez, si vous avez des produits qui sont soumis aux cours mondiaux, vous n'aurez pas de pérennité. Et puis si vous voulez faire de l'irrigation, l'irrigation est en baisse sur le secteur. Pourquoi ? Puisqu'elle est plus subventionnée. Donc les politiques publiques et l'économie va dans le sens de l'évolution qu'on souhaite. Et donc on est là pour l'appuyer, pour essayer de la mettre en œuvre.
Bien, merci Jean Bourdon et merci Christian Conrad. Je rappelle donc que vous veniez au micro de Radio Abitses parler donc de l'actualité, ou plutôt de la non-actualité du débat du projet de territoire qui semble un peu patauger. Mais il y aura peut-être du nouveau en juin et vous viendrez nous en reparler de qu'est-ce qu'il en est et si vous en êtes content ou si ça a empiré. Merci à vous encore.
Et merci à vous aussi, quoi. Et au revoir, Jean. Au revoir à tous les deux, quoi.
Merci encore à Jean Bourdoncle du collectif Testé et à Christian Conrad de l'association Apifera. C'était un entretien enregistré fin mai 2019. Merci à l'autre JT sur France 4. Merci à Radio Galère et l'équipe de l'émission La Demi-Heure Radioactive. Merci au collectif Tant qu'il y aura des bouilles. À lire sur le sujet des articles très fouillés de notre ami Grégoire Souchet sur le site reporter.net. À lire aussi sur internet la brochure Contestée ou Co-gérée qu'on peut trouver notamment sur le site archive.org et à relire plus que jamais L'époque est-elle fasciste publié en 2015 aux éditions des Bouilles et on commence à avoir quelques réponses à cette question.